Hey, nous sommes de retour et cette fois en compagnie de Philippe Quentin, à qui j'ai pas eu l'occasion de jaser, ça fait un petit bout de temps, même si on se croise quand même au poste. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Très heureux de t'accueillir aux amateurs de
ben
sport
oui,
ce
ben
soir.
Merci, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui.
Et je t'entendais en parler avec Patrick également, puis c'est un gros sujet, on va parler du Canadien, mais on va se garder ça pour le dessert. Je voulais que tu me parles du projet qui a eu l'effet d'une bombe quand ça a été dévoilé publiquement, de la création d'une Super Ligue avec 12 grands clubs européens. Les réactions sont véhémentes, c'est le moins que l'on puisse dire. Penses-tu que ça va vraiment voir le jour, Philippe?
Ben, ça semble parti pour ça, parce que les 12 équipes en question, ce sont des canons du monde du soccer international. Là, on parle des plus grandes équipes, celles les plus décorées, celles qui ont le plus grand profil, le plus grand retentissement médiatique, celles qui ont le plus de revenus, le FC Barcelone, le Real Madrid, les grandes équipes anglaises de Manchester City, Manchester United, Chelsea, en Italie, c'est la Juventus, l'AC Milan, l'Inter Milan. Et là, c'est 12 clubs. Là, il y a trois clubs italiens, trois clubs espagnols et six clubs anglais. Ils disent, écoutez, nous autres, la Ligue des champions, qui est une des compétitions internationales les plus suivies, c'est celle qui permet à chaque année de couronner un champion européen. Ben, ils disent, nous, là, la Ligue des champions, ça ne nous intéresse plus. On va fonder notre propre Ligue. On est 12 clubs fondateurs. On va en ajouter trois dans les prochains jours. Et puis, on va faire une Ligue à 15 clubs, mais on va en ajouter 5 qui vont changer chaque année. Alors, selon le mérite, selon les performances, on va se faire une ligue à 20 clubs. On va continuer de jouer notre championnat national, c'est-à-dire les clubs espagnols vont jouer le calendrier espagnol, puis les clubs italiens, le championnat en Italie. Mais pour les compétitions européennes, fini la Ligue des champions, on se prend en main, puis on organise nous-mêmes notre ligue. C'est un peu, je donnais l'image un petit peu plus tôt aujourd'hui, Mario. C'est juste pour expliquer, là, c'est une image, puis comme toutes les images,
oui,
ça doit être un peu boiteuse, mais elle a du vrai aussi. C'est comme si on se réveillait ce matin, là, puis on avait appris en se réveillant ce matin que coup de tonnerre dans la Ligue nationale de hockey, les Bruins, le Canadien, les Maple Leafs, les Rangers, les Blackhawks et les Red Wings, tu sais, les équipes historiques, là, les six équipes originales, décidaient de former leur propre ligue. Puis de dire, ben nous, le reste de la Ligue nationale, ça nous intéresse pas.
On est tenu de payer pour les autres.
Ouais,
là,
c'est ça. Au baseball, les Yankees, les Red Sox, les Dodgers, autres disaient la même chose. C'est le même coup de tonnerre. Et juste pour te donner une idée là, de la force de frappe, c'est comme un tsunami sur la scène sportive européenne. Aujourd'hui, ce sont non simplement les instances sportives qui ont commenté, mais également les chefs d'État.
Là, probablement,
ben oui. Oui, le président Macron en France a dénoncé ça, le premier ministre Johnson au Royaume-Uni a dénoncé ça, le premier ministre italien a dénoncé ça, le gouvernement espagnol a dénoncé ça. Tu sais, alors, ça rejaillit bien au-delà du sport.
Ben, écoute, moi, de la manière que je le reçois puis que je le perçois, je me demande plutôt comment ça se fait qu'ils ont réussi à éviter un tel scénario pendant tant d'années, Philippe. Parce que, dans le fond, c'est un modèle à la NFL ou à la MLB, si je reprends une autre image un peu... Ouais. C'est-à-dire que... C'est une super ligue. Nous autres, il pourrait y avoir d'autres modèles. Si on était bâti sur le modèle du soccer, les sports nord-américains, on n'aurait pas les grandes ligues qu'on a. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Tout à fait.
Donc, le modèle nord-américain vient de traverser l'Atlantique.
Oui. Et c'est ce qui choque beaucoup les Européens. Et une des raisons que ça les choque, c'est que parmi les six clubs anglais qui sont derrière cette aventure-là, il y en a trois qui sont détenus par des Américains. Alors ça compte pour beaucoup. Donc, ce sont des Américains qui importent le modèle. Alors, il y a un de ces clubs-là qui est propriété du même groupe qui possède les Red Sox de Boston. Un autre qui est propriété du même groupe qui possède l'Avalanche du Colorado. Le propriétaire des Buccaneers de Tampa Bay est propriétaire également d'une de ces équipes-là. Alors, c'est un peu comme... eux, ils disaient, ben nous, là, le modèle nord-américain, on vous l'amène en Europe. Et là, ils ont joint à leur groupe des grosses pointures dans le sport européen, comme Agnelli, qui est le de la grande famille Agnelli, là, qui ont fondé Fiat, qui sont propriétaires de la Juventus de Turin. Et là, c'est que dans tout ça, il y a un sentiment de trahison qui est ressenti par les autorités européenne de soccer. Parce que ce projet-là, il est dans l'air depuis à peu près un an. Moi, je me souviens, il y a un an, là, on en a parlé, ça avait commencé à parler, puis tout ça, puis bon, mais pas plus que ça. Quelques articles dans les journaux, des commentaires à gauche et à droite, mais tu sais, rien de plus. Mais là, manifestement, les gens qui veulent fonder cette Super League-là ont continué de travailler en coulisses. Et là, vers la fin de la semaine dernière, les rumeurs sont devenues plus persistantes, qu'ils annonceraient peut-être qu'ils iraient de l'avant. Et le président de l'Union européenne de football, qui lui est contre, là, parce qu'il veut garder la Ligue des champions, il dit qu'il a parlé à Agnelli, le propriétaire de la Juventus de Turin. Il dit « Je lui ai parlé samedi et il m'a assuré qu'il n'en était pas question, que c'était simplement des rumeurs, puis que non, on veut pas faire ça. » Puis il m'a dit « Écoute, puis on reste en contact. » Puis il dit « À partir de là, j'ai essayé de le rejoindre quand la rumeur a quand même continué de courir dans les heures suivantes. » Puis il dit « Il avait fermé son téléphone. » Il dit « J'ai jamais entendu quelqu'un me mentir comme ça dans la vie. » Alors, tu sais, ce commentaire-là donne une idée aussi. Alors, au-delà de la nouvelle, de l'initiative, ouais, il y a un sentiment de trahison. Donc, c'est pour ça que la réaction est aussi viscérale. Puis là, on dit, écoutez, ces clubs-là, on va vous expulser de nos confrontations européennes. Les joueurs qui jouent pour ces clubs-là, ils n'auront pas le droit de jouer dans la Coupe du monde. Ils n'auront pas le droit de jouer à l'Euro. Mais tu sais, ça, c'est des menaces à l'heure actuelle. Là. Reste à voir qu'est-ce qui pourra se concrétiser dans tout ça.
C'est la FIFA ou l'Union européenne, sommairement, Philippe?
Ça va être ça, le combat. Tu vas avoir d'un côté la FIFA et l'Union européenne contre les 12 clubs. Mais tu t'embarques dans l'Union européenne et la FIFA s'embarquent dans une grosse lutte, là. Parce que, tu sais, là, prends par exemple la Ligue des champions de cette année, là, on est rendu aux demi-finales. Les demi-finales ont lieu au tout début du mois de mai. Sur les 4 clubs en demi-finale, il y en a 3 qui font partie de la nouvelle Super League. Et là, la rumeur, c'est qu'on va les exclure de la compétition vendredi. Ça veut dire que c'est fini, là. Il y a plus de championnat, puis le Paris Saint-Germain, qui est pas là-dedans, serait couronné champion. Est-ce que tu peux faire ça? Tu sais, regarde tous les grands joueurs qui jouent pour Barcelone, pour Real Madrid. Quoi, t'y verrais plus à l'Euro? T'y verrais plus à la Coupe du Monde? Comment les Argentins vont réagir si on leur dit que Messi peut pas jouer pour l'Argentine à la Coupe du Monde parce qu'on n'aime pas comment ça se passe, le soccer en Europe? Pour moi, ça tient pas la route. Alors, je sais pas, ils vont voir qu'ils trouvent une solution, mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment là une guerre larvée qui est en train de se dessiner entre les deux.
En tout cas, ça frappait l'imaginaire quand c'est sorti, et je m'en voudrais de pas te demander de nous glisser un mot sur le Canadien. 14 matchs encore à jouer d'ici la fin de la saison. Tu sais, je vois ça de deux façons. C'est sûr que c'est pas très rassurant ce qu'on voit sur la glace, là. C'est une évidence. En même temps, il faut jouer son meilleur hockey au bon moment. Il reste 14 matchs à jouer. 14 matchs peut-être pour toucher encore plus profond le fond du baril s'il y a lieu, ou pour rebâtir quelque chose de plus solide et se donner l'élan qui t'amène au bon moment en séries éliminatoires. Comment vois-tu la fin de la saison régulière des Canadiens, Philippe?
Ben, je pense qu'on va avoir une bonne réponse dans une semaine, là, quand les 5 prochains matchs vont être joués. C'est le Canadien joue en partie sa saison-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. 2 fois à Edmonton, 3 fois à Calgary, avec les Flames qui sont leurs plus proches pourchassants. Alors, c'est le Canadien, c'est une période clé. Et là, le Canadien amorce cette période-là certainement pas en confiance. Moi, tu sais, la performance du Canadien contre les Sénateurs d'Ottawa samedi, c'était déplorable. Là, au Centre Bell, je comprends qu'il n'y a pas de partisans, mais quand même, t'es à maison, t'es dans ton environnement. Ça va pas très bien dans l'équipe. On sait qu'il faut vraiment secouer un peu tout ça, là, malgré la victoire de la veille contre Calgary. Puis t'offres une performance comme celle-là. Pour moi, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe-là. Tu peux pas arriver aussi à plat pour un match comme celui-là, quand tes 2 points sont importants, avant d'amorcer un séjour qui s'annonce très difficile à l'étranger. Tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas jouer comme ça, à moins qu'il y ait un problème dans l'équipe. Est-ce que c'est le message de Dominique Ducharme qui passe pas? Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on a tout simplement qui ont été surévalués? Peut-être aussi. Mais tu sais, j'écoutais tantôt, c'est toujours intéressant évidemment d'écouter Danny là, qui passait juste au début de l'heure. Puis Danny parlait de l'influence dans cette équipe-là de Brendan Gallagher, puis que, tu sais, combien il est important, puis quand il est pas là, ça coûte cher, puis tu sais, il donnait tous les chiffres, puis les buts, puis tout ça. Oui. Puis je partage entièrement cet avis-là. Cela dit, Mario, Je crains que si le Canadien devait tomber dans un abîme encore plus profond, que la direction se serve encore d'une excuse pour justifier ce mauvais rendement-là. Tu sais, je regarde en 2016, la mauvaise année. Ah, ben Price a été blessé. En 2017, éliminé en première ronde, mais on a eu plus d'occasions de marquer que les Rangers, on aurait dû gagner. En 2018, c'était l'attitude, hein, cette mauvaise attitude. Tu sais, en 2019, bon, je sais pas, on a eu des séries de défaites. Si on n'avait pas eu des séries de défaites, ça ne serait pas arrivé. Tu sais, mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et ça, ça vient fatigant. Parce que là, tout à coup, là, ça fait combien de coachs? Tu sais, cette année-là, c'est un sérieux coup de balai. Là. Quand tu congédies ton entraîneur des gardiens de but en deux périodes, là, c'est que tu étais prêt à aller pas mal loin. Là. Combien de nouveaux joueurs? Puis pourtant, ça ne marche pas encore.
Je me suis même demandé, si jamais ça ne devait pas se replacer, je me suis même demandé, coudon, Marc Bergevin a-t-il déjà réfléchi à la possibilité de descendre derrière le banc?
Ah, ça, je ne pense...
Écoute, il a déjà été adjoint à Chicago. Je veux dire, Lamoriello, il l'a fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais tu sais, c'est sûr que personne visualise ce scénario-là. Tout le monde s'est dit qu'ils vont gagner des matchs puis que ça va se replacer. Tu as Joël Bouchard qui est pas loin dans ton organisation. Mais tu sais, c'est juste ce qui m'a inspiré ça, c'est le fait qu'il est prêt. Il est allé loin cette année. Il en a dépensé des cartouches. Puis il voit pas les... Il attend des résultats qu'une équipe semble pas capable de lui donner. En tout cas, pas à la hauteur.
Toi, tu vois ça comme potentiellement sa dernière cartouche, c'est ça?
Bien, j'essayais de m'imaginer là, le pire des scénarios sans le souhaiter, là, on s'entend. Là. Puis je me suis dit, ben, c'est une des hypothèses. Moi, je fais juste évaluer des hypothèses. C'en est une. Peut-être qu'elle est très, très insignifiante ou très, très minime. Mais mettons là, que ça passe une séquence de défaites. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire.
Ouais, puis tu sais, on voit Ducharme là qui, je sais pas, tu sais, t'as écouté sûrement son point de presse là, après le match de samedi.
Oui,
moi,
bien
j'ai
sûr.
Vu un gars, j'ai vu un gars désemparé. Là.
D'ailleurs, Philippe, excuse, garde.
Les boys, ça va être la troisième fois, je dis. Je peux pas faire le changement. Je peux pas en faire. Donc, c'est assez simple, je peux pas en faire.
That's it. On n'a pas besoin d'entendre plus longtemps.
Comment tu penses que Bergevin a pris ça, ce commentaire-là? Tu sais?
C'est sûr que...
S'il n'y a pas de cartouche à jouer, c'est que les cartouches ont déjà été jouées.
S'il réagit
pour la fin.
Comme on peut penser qu'il réagit quand il y a des choses qui ne font pas son affaire, d'après moi, il a réagi avec émotion, mais peut-être pas... Tu sais, je veux dire, ça passe après deux minutes. Là,
c'est ça.
Mais sur le coup, ça n'a pas dû dire...
Tu peux te demander aussi comment ça se fait que le Canadien en est dans une situation comme celle-là. Là, comme pourquoi a-t-on brûlé autant de cartes? Pourquoi a-t-on brûlé 3 cartes sur 4 là, avec un seul match là, tout de suite après la date limite des transactions? Ça aussi, c'est une question de gestion. Là. Puis ça n'a pas rapport avec les où est situé l'allié droit sur le jeu de puissance, puis comment on utilise à la pointe en avantage numérique, là, c'est pas ça, c'est la gestion du personnel. Et là, tu pourrais faire des changements, tu voudrais faire des changements, puis t'es menotté, tu peux pas les faire. Donc, il y a un problème.
C'est là, particulier, surtout quand dans ton alignement, il y a des gars qui sont pas à la hauteur, clairement, en plus, dont ta récente acquisition. Bref, histoire à suivre. Philippe, c'était bien le fun de reparler du Canadien.
Ben oui,
ça faisait trop longtemps. Bonne soirée, bon match ce soir.
Salut Mario.
À bientôt, j'espère. Bye-bye. C'était Philippe Quentin. Et dans quelques instants, le basket québécois est-il en pleine effervescence? On en discute au lendemain de cette soirée historique où trois Québécois se sont retrouvés sur un même court, jouant dans un match entre les Raptors et le Thunder d'Oklahoma City. On va en parler avec un homme qui est le coach en chef de l'équipe d'Ottawa de la Ligue élite de basketball au Canada et qui a fait partie de l'équipe d'entraîneurs de la grande famille des Raptors de Toronto, Charles Dubé-Bret, au retour.